On a commencé par sortir cette phrase-ci des écrits. On aimerait savoir ce que tu en penses aujourd'hui. C'est l'art que je produirai est assurément collectif, puisqu'avec cette base programmatique, chacun peut réaliser ses propres tableaux sans restriction quant au format ou au médium. Ces tableaux peuvent être aussi exécutés en groupe. Ainsi, cette programmation rend désuet et inutile l'enseignement de l'art.
Mais oui, ça c'est une. C'est la forme d'art, je dirais, réalisable. Donc, l'art qui s'enseigne est un art qui nécessairement correspond au programme. Alors, toute forme d'art qui sait d'avance ce qu'il veut produire, c'est un art. Évidemment, qui est sans intérêt. Ce n'est pas de l'art. Mais évidemment, enseigner l'art, c'est enseigner ça. C'est enseigner ce qui ne peut pas être enseigné. C'est enseigner de faire correspondre un produit à un modèle. Alors, en art, justement, c'est que le produit devient un modèle. C'est pas la même chose du tout. Mais idéalement, c'est le modèle d'un seul objet. Et que justement, c'est ça qui est la difficulté, c'est que chaque œuvre devrait avoir suffisamment de potentialité pour se distinguer de toute autre œuvre, de ne pas vraiment avoir les mêmes paramètres. Donc, c'était une forme de façon de définir toutes les formes d'art qui correspondent à des définitions, quoi. Autant en art conceptuel qu'en art traditionnel. Alors, c'est une façon de démontrer que toutes les formes d'art sont en réalité réalisables une fois qu'on a systématisé les caractéristiques. Mais évidemment, c'est qu'est-ce qui n'est pas caractérisable qui est l'art. Alors, évidemment, c'est chiant de donner aux gens la chance de faire de l'art pour tous, qui est de ne pas faire de l'art. Parce qu'en général, les gens, c'est de ne pas faire de l'art, faire semblant de faire de l'art. Parce que justement, l'art, dans le concept que j'ai, n'est pas un objet de communication, mais un objet de communion, d'appropriation, d'identification. Pour moi, l'identification, c'est la contradiction de la communication. C'est la fusion avec. Et quand on fuse avec quelque chose, on ne sait pas pourquoi, justement, c'est que ça correspond à ça correspond à un manque. Ça remplit un manque. C'est une réparation. Alors pour moi, l'art, c'est une réparation. C'est une forme justement, de réaliser la plénitude du moi qui est théoriquement lésé, en fait, lui manque quelque chose pour se sentir totalement complet. Alors c'est pour ça que la grande difficulté entre le problème de la forme et du fond, c'est que la forme, c'est qu'est-ce qui peut être analysé, c'est qu'est-ce qui est, on pourrait dire, rationalisable, tandis que le fond, c'est le fond irrationnel. De fond pulsionnel. Et pour moi, c'est pour ça que quand je fais un tableau, j'essaie toujours d'aller le plus loin possible sur la pulsion. Et évidemment, pour aller le plus loin possible sur la pulsion, il faut autant que possible simplifier. Le plus l'œuvre est complexe, plus elle se suffit à elle-même. Sa complexité devient presque sa fin en soi. Alors ça, justement, c'était dans une de mes. En réalité, ça représente aussi une forme d'autocritique, parce que ça correspond aussi à un mécanisme de morbide, un mécanisme de défense. Puis pour moi, plus une œuvre est complexe, en fait compliquée, sans certaine façon de parler, plus elle est en réalité, elle couvre une absence, une ambivalence de choisir. Mais évidemment, aussi très difficile de choisir.
Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait reparler de ce que tu disais tantôt, point de vue de choisir dans l'enseignement que tu fais? De qu'est-ce que, pourquoi tu enseignes? Tu sais, qu'est-ce que tu essaies de faire passer ou qu'est-ce qui est important pour toi? J'imagine que tu n'es pas obligé d'enseigner.
Non, j'aime ça. J'enseigne pour, tout simplement parce que si tu crois une chose, et si tu penses que c'est bon pour toi, c'est, pour moi, c'est une forme de communication, justement. Mais de communier au niveau, justement, d'une conception de l'art. Et pour moi, je crois que c'est très important d'avoir des gens qui disent dans les universités, dans les écoles d'art, justement, que l'art, c'est le produit de la pulsion, c'est le produit de l'individu qui veut s'affirmer, et non pas qui veut s'attacher à définir, en fait, à réaliser les modèles accepté par une certaine société, un certain moment donné, comme j'ai dit dans ma conférence à Québec 75. Mm-hmm. Voilà. Ben, et donc, je crois que ça, c'est très important, et c'est pour ça que j'enseigne, en sens que moi, quand j'étais... En fait, je ne pouvais pas aller dans une école d'art quand j'étais jeune, parce que l'art qui est enseigné, c'était un art, justement, qui était une négation même de l'individu. Alors, évidemment, je trouve ça tout de même intéressant de pouvoir apporter cette note dans le concept de l'enseignement, même si je sais que théoriquement, c'est très très difficile pour l'étudiant de se situer vis-à-vis cette notion qui est contradictoire par rapport au système. Le système s'attend à ce qu'il produise des choses convenables. Et parce que théoriquement, on lui enseigne certaines formes de techniques dans d'autres disciplines que la peinture. Moi, la peinture, c'est pas une technique qui est réellement très compliquée. C'est une technique qui est assez facile à maîtriser. Alors, c'est pas vraiment un art qui a une technique, mais qui est très exigeant. Alors, c'est ça qui m'intéresse, de voir justement comment les gens, les jeunes, en fait, peuvent se débrouiller avec un concept comme celui-là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé encore aucun élève qui m'a dit, bien, je trouve bien de sortir de l'école. Il n'y a rien qu'une, peut-être une fille, elle dit. Elle est sortie, mais une. Après ça, vous la suicidez. C'est pour ça. Mais c'est pas bien, ça. En réalité, c'est vrai, il n'a rien que là. Ça m'a un peu troublé. Hein. Surtout quand elle m'a dit qu'elle avait suicidé. Après ça, il est revenu et elle m'a dit que je ne devrais pas enseigner. Que moi aussi, je devrais l'appliquer à moi-même. Et puis de pas frayer les gens. Elle m'a demandé ce que je faisais là, avec ces jeunes filles-là. Parce qu'elle était plus lucide. Elle m'en avait sorti. C'était bon. C'est intéressant. Une dans 5 ans, c'est pas mal.
Mais c'est curieux, t'as employé la communication t'intéresse pas au niveau de ton œuvre. Ce qui t'intéresse, mm-hmm. c'est la communion. Puis quand tu as parlé de l'enseignement, tu parles de communication. Oui. C'est la nuance que tu fais.
Oui, oui, mais c'est pour moi, justement, c'est que on peut. Pour moi, la communication, c'est qu'on communique toujours une opinion. C'est des opinions. Et pour moi, des œuvres d'art, ça ne va pas être des opinions. Ça devrait être des choses, justement, qu'on trouve qui sont essentielles à la vie et qu'on les fait par une très grande nécessité et que ça peut apporter à quelque chose, à quelqu'un d'autre, s'il peut vraiment fusionner avec. Mais justement, c'est qu'elle ne vit... Pour moi, justement, c'est qu'il doit pas y avoir dans l'œuvre cette contradiction, c'est ce niveau où les deux niveaux, le niveau de la forme et du fond peuvent être perçus. Et ça peut être synthétisé totalement. Mm-hmm. Et qu'on ne peut théoriquement pas savoir pourquoi c'est bon, vraiment. Parce que ça ne peut pas vraiment se scinder. Mm-hmm. Tandis que, justement, j'ai tout individu, un besoin de communication. Et pour moi, la communication, justement, c'est comme ça, c'est d'aller au bout de ses opinions et d'avoir le courage, justement, de les professer, évidemment. Et de déterminer qu'est-ce qui m'amène, finalement, à créer. Donc, mon point de vue, si on veut, sur l'enseignement est une forme de philosophie de l'art qui explique mon comportement artistique. Mais je n'ai pas de théorie spécifiquement sur la pratique picturale. Mm-hmm. Malgré que j'en ai quelques-unes, justement, dans le sens que comment on définit des formes qui ne sont plus viables. Mm-hmm. Parce qu'il y a des formes qui ne sont plus viables. Je ne crois pas que les individus peuvent vraiment se réaliser en réalisant un certain nombre de choses. Ça me semble évident. Mais justement, ça, c'est évident pour celui qui a atteint la lucidité. Pour un étudiant, c'est différent. il y a des choses qui sont, même si la forme est très, très pauvre, il peut y avoir encore un certain niveau de pulsion qui peut passer. Dans la mesure où il a intuitionné un modèle, plus ou moins. C'est toujours une question de à quel point on se soumet à un modèle. Hein.
Mm-hmm.
C'est le problème de la connaissance qui se pose là-dedans.
Mais dans un discours où tu tentes de définir la notion d'artiste, là, ton discours justement de Québec 75, où finalement, pour définir la notion d'artiste, tu viens parler de la notion d'objet d'art, tu dis « Il faudra bien un jour assumer pourtant que les objets artistiques impliquent que les individus ont choisi ce trajet de production comme processus de communication interhumaine. » Pourquoi tu amènes la notion de communication au lieu simplement de...
Oui. Il peut y avoir un certain niveau ici de contradiction. Je vais dire ici, je parlais de communication ici dans le sens de mode de production interhumaine. C'est la façon où l'individu finalement a choisi de se produire. C'est sa scène. C'est là, il choisit de se... C'est par ça, au fond, qu'il se communique. Mais il se communique justement lui-même. C'est qu'il ne communique pas un message, c'est un comportement qui est communiqué. Donc ici, ce n'est pas la communication en tant que, qu'information, mais que comme forme de comportement. Alors justement, l'artiste est celui qui a choisi au fond de communiquer de par la production, par son mode de production. Et que finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller chercher à voir d'une façon anthropologique et psychanalytique, ce qui implique son mode de production, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure dans mon texte c'était de créer une disjonction, c'est de briser son message. Alors c'est d'appliquer une méthode analytique au message, mais que pour moi c'est malsain. D'appliquer une méthode analytique au message, c'est de refuser de le vivre dans sa totalité. Alors je dis plus ou moins, on doit plus ou moins accepter le message ou le refuser. Mais essayer de rentrer dedans, puis essayer de voir, en fait, de faire la part des choses, c'est un peu malsain. Je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est de reconnaître que l'artiste, justement, a créé une synthèse de par son comportement, de par son mode de production. Et c'est ça, en fait, qui est offert comme totalité.
Mm-hmm.
Et que théoriquement, justement, c'est ce que je posais, que de demander à l'artiste de se retourner sur lui-même et d'essayer de faire la part des choses entre... dans sa synthèse, finalement, c'est presque dangereux. Parce que c'est tout est question pour lui de créer cette synthèse.
Mm-hmm.
Et comme je dis, que toujours... théoriquement, s'approcher de la pulsion du fond. Et on lui dit, mais qu'est-ce que c'est qui en est de la forme et du fond? Qu'est-ce qui est vraiment de profondément vous-même dans votre œuvre? Et dans quelle mesure avez-vous été influencé par M. Huttel, Et puis, qu'est-ce que vous voulez prouver avec ce genre de peinture? Mais toujours à un niveau très rationnel. Alors pour moi, justement, la peinture, l'art, c'est une synthèse du rationnel, de l'irrationnel.
Mm-hmm.
Par exemple, quand je discutais avec Tessed, je trouve ça fantastique, j'ai pas de théorie sur la couleur, parce que lui, il avait écrit un très grand livre sur Roger Lepine, un peintre classique, qui était un très grand spécialiste, avec des grandes théories sur le symbolisme de la couleur, etc. Moi, je trouve que c'est aberrant que d'avoir une théorie symbolique sur la couleur, parce que la couleur véhicule la pulsion. Tu peux pas vraiment... pour moi, une couleur, ça n'existe pas.
Mais quand tu parles du symbolisme dans ton travail, c'est ce que tu veux dire par le symbolisme? Est-ce que la couleur, ou chaque couleur...
Pour moi, la couleur ne peut pas être symbolique. Dans le sens, comme on dit, c'est que la couleur ne peut pas... Premièrement, pour moi, une couleur, ça n'existe pas. Et puis, il existe que des accords de couleur. Alors, on ne peut pas jamais parler d'une couleur. Parce que la couleur, cette couleur-là... existe toujours dans sa forme, hein, dans sa dimension et dans sa corrélation. Donc, ça n'existe pas une couleur. On ne peut pas isoler une couleur dans un tableau. Cette couleur-là n'a aucun sens isolé. Donc, les couleurs ont un sens que dans leur accord. Mais leur accord aussi n'ont un sens que dans leur fonction. C'est strictement pictural, en fait, de situation, de position. Donc, on ne peut théoriquement pas parler d'une couleur. Et quand on parle de la couleur, on parle nécessairement de ces accords colorés, de ces harmoniques. Donc, il ne peut pas y avoir une théorie symbolique pour dire ben, qu'est-ce que c'est que.
Non, je parlais
comment pas. Qu'est-ce que signifie tel ton d'oranger dans la conjecture.
D'une couleur, je parlais de l'interaction des couleurs dans un tableau de Molinari.
Oui, mais c'est un cas spécifique pour moi. Pour moi, chaque tableau est un cas d'espèce. Et que chaque tableau, si on veut, peut théoriquement pourrait. Correspondent à une certaine symbolique, comme totalité. Mais là, évidemment, c'est très
c'est ça
difficile.
Que je voulais dire, cette symbolique-là.
C'est très difficile parce que c'est vécu différemment par chaque individu. Parce que ça ne correspond à aucune notion qui peut être cataloguée. Par exemple, moi, je ne crois pas au ton chaud ni au ton froid. Je ne trouve pas de couleurs gays et de couleurs qui sont moins gays. Pour moi, toutes les couleurs, ça n'existe pas, des notions comme ça. Donc le tableau, c'est une entité totalement qui ne peut pas se diviser. Et la couleur ici n'est pas plus... est une chose qui est le véhicule même du tableau. La surface et la couleur vont ensemble. Parce que la surface et la couleur, justement, dans le temps de perception, créent l'espace. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de la couleur, parce qu'en réalité, ce dont il est question, c'est de la production de l'espace. Parce qu'en réalité, c'est l'événement qui est là. C'est ce qui est produit, il produit quelque chose. C'est le moteur, si on veut. Mais ce dont on parle, c'est de l'effet. Mais l'effet, c'est l'espace. L'espace tel que vécu, tel que structuré par celui qui voit. Donc, le tableau, c'est ça ma notion de la fiction. Non, mais c'est ça qui, pour moi, c'est qu'est-ce que je crois le plus important, c'est de poser toujours que l'œuvre se crée par le spectateur. Et qu'il est toujours question, moi, quand je parle de la fiction spatiale, pour moi, je parle de la façon spécifique que l'individu élabore son rapport à l'œuvre. Et pour moi, c'est vraiment que de parler de toute chose, de parler du tableau, c'est toujours parler à côté. On devrait toujours parler de comment cet objet-là est vécu. On prend par un spectateur donné, un opérateur. Alors c'est ça que je trouve toujours assez pessimiste, un peu ennuyeux, toutes les discussions généralement qu'on a sur l'art. On discute toujours, comme je disais tout à l'heure, de cette contradiction, en fait, la notion de forme et de fond. On exclut le fond et on parle de la forme. Comme c'était une chose qui existe en dehors de quelqu'un qui le vit. Il y avait des formes qui vivaient pour la forme, on dit. Donc l'art pour l'art, en fait, cette notion. Donc, je crois que c'est ça le grand malentendu que les gens véhiculent, de ne pas comprendre justement la notion d'espace. Parce que continuellement, on s'imagine que l'espace existe réellement, phénoménalement, dans le tableau, tandis que l'espace existe dans le spectateur. Et c'est lui qui l'a créé. C'est son rapport, justement, à ces notions de rapport harmonique extrêmement complexe, ces rapports de moments syntactiques dans le tableau. Mm-hmm. Ça s'origine dans le tableau, mais c'est toujours l'opérateur qui les combine. Donc, on parle d'une combinatoire ici, vécue, et donc, par le fait même, qui véhicule un très grand nombre d'associations. Et c'est donc le vécu historique, réel, de l'individu qui est mis en question. Et c'est pour ça que je crois que, généralement, on fait trop de cas de l'artiste. Pour moi, il est beaucoup plus question de celui qui vit l'œuvre que de celui qui l'a fait. Évidemment, celui qui l'a fait apporte la pertinence de l'intérêt de vivre cette chose-là. Mais en réalité, on devrait toujours parler beaucoup plus de qu'est-ce qui est produit chez le spectateur. Et évidemment, à côté de ça, il y a peut-être un niveau qui serait des discussions strictement formelles. Mm. On pourrait dire, à connotation strictement esthétique, là où on discute strictement de forme et pas de fond. Il n'est pas question de pulsion. Ils ont vraiment d'une théorie de l'information. Et c'est là qu'on tombe en sémiologie. Et généralement, on vacille toujours entre la sémiologie, en fait, ce qui est devenu la sémiologie, et une espèce de psychologisme de ce que l'œuvre, en fait, pourrait nous faire porter, nous faire ressentir. Tandis que pour moi, c'est tellement vaste, les potentialités d'une œuvre, on ne peut jamais dire que l'œuvre nous fait ressentir une chose plutôt qu'une autre. Ça dépend toujours de celui de l'opérateur. Mm-hmm. Ça répond à ta question, sa communication.
Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression que... Comment je pourrais dire ça? Que l'évolution de la société aujourd'hui, en 1976, a donné un nouveau rôle à l'artiste ou à l'objet d'art? Ah, et quel est le rôle actuel?
Personnellement, je ne vois pas tellement que les rôles vont changer, changent tellement. Et il faut dire aussi, c'est que l'art, comme toute autre forme de production, il y a tellement peu, au fond, de gens qui font de l'art. Tu comprends? La plupart des gens jouent un rôle. Ils jouent le rôle de celui qui fait de l'art ou qui fait ceci. Et ils se défendent bien, justement. Ils veulent toujours se situer à un niveau extrêmement rationnel et extrêmement programmatique. Et la plupart des gens veulent toujours poser « qu'est-ce qu'ils font, c'est correct, c'est dans la ligne de, c'est dans la ligne de l'évolution, c'est ci, c'est ça, tu comprends? » Alors, pour moi, justement, la réalité artistique est une chose qui a toujours été, il sera toujours, assez difficile d'accès. Mm-hmm. Et je crois que cette forme de communication, de communion avec des œuvres, sera toujours assez limité. Faut pas confondre, je crois, le mode de production en général et le mode d'une création. Pour la création, c'est une chose très difficile. Extrêmement difficile parce que, justement, j'ai toujours pensé que la création, ce que je dis sur mes élèves, c'est un moment extrêmement éthique. La création, c'est éthique. Et c'est un mode de vie. Et alors, de vivre pour cette forme de produire quelque chose qui finalement est une chose, comme tout à l'heure je parlais du spectateur qui vivait la complexité de l'œuvre en lui-même. Pour moi, l'artiste est un spectateur. Moi, il y a une très grande différence entre les moments de production et les moments de perception. Moi, c'est deux choses totalement différentes. Alors, pour moi, l'œuvre, justement, est faite avant tout pour apporter une plénitude à la vie. Donc, c'est ça son rôle. Donc, l'œuvre est essentiellement égoïste. Elle est faite essentiellement pour pour l'artiste. Et moi, personnellement, je ne trouve même pas que les artistes, en général, que je connais, sont tellement portés, sont pas privilégiés pour accéder aux œuvres des uns et des autres.
Mm-hmm.
Parce qu'ils sont justement très souvent extrêmement fermés à la disponibilité d'opérer. Et que souvent, moi, j'ai marqué que c'est des gens très... En fait, tout à fait en dehors des artistes qui étaient plus aptes à tirer profit, en tirer plus que les artistes. Donc, c'est ça, je crois, qu'il est. Donc, comme je disais là, sur le plan éthique, il faut vraiment avoir tout un comportement pour produire. Et ce comportement-là, justement, c'est une très grande assaise, finalement. Parce que c'est une assaise qui vise, je dirais presque, à un niveau fétichiste. Parce que l'artiste, pour moi, c'est un fétichiste. Parce que théoriquement, il a besoin d'un fétiche.
Mm-hmm.
Il a besoin de quelque chose pour combler et pour tenir la place d'eux. Alors, évidemment, ça demande un comportement qui est axé là-dessus. Et qui surtout reconnaît le manque. Et ça, c'est tragique de reconnaître le manque.
Et toi qui as écrit, enfin, le côté théoricien, qui a toujours été, qui a toujours suivi parallèlement ton œuvre, est-ce que tu as toujours parlé ou écrit de gens, finalement, qui te concernaient?
Ah oui, c'est évident. C'est assez sûr, ça. Mais aussi des gens qui me concernaient le plus, je n'ai pas écrit sur eux.
Mais on reviendra à ça tantôt. Ouais, mais quand tu dis que l'œuvre d'un artiste, je pense que ça a un rapport avec ce que tu viens de dire, l'œuvre d'un artiste ne se sépare pas de son moi intérieur.
Mm-hmm.
Comment, dans le cas de ta peinture, cela se traduit-il?
Ben, ça se traduit strictement par ce, dans le sens que le moi se découvre dans le tableau. Il s'agit de le projeter. Mais justement, l'ensemble du trajet, c'est ça. C'est de projeter, de se découvrir, de se révéler. Mais il est évident qu'on ne peut jamais se révéler. C'est toujours une faillite.
Mm.
On ne peut pas se révéler. On ne peut pas se reconnaître. Donc, c'est métaphoriquement qu'on se révèle. Donc, on essaie de faire une certaine forme d'approximation. Mais évidemment, pour moi, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau du ça, c'est au niveau de la pulsion la plus profonde. C'est de s'ouvrir, justement, à des pulsions les plus irrationnelles, plus inconséquentes, on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi essayer de céder à ces pulsions-là. Mais évidemment, il s'agit toujours de les mettre en forme. T'comprends? Donc, cette mise en forme, c'est le domaine du moi. Mais le moi, justement, qui est qui essaye d'assimiler le ça, en fait, de se rapprocher le plus possible du ça.
Mm.
Et donc de s'enrichir.
Mm.
C'est pour ça que pour moi, les œuvres que produisent les artistes sont les moments les privilégiés de la vie. C'est les grands moments, parce qu'il y a eu une fusion, il y a eu un accès d'un moi à quelque chose de profondément humain qui est caché presque pour tout le monde. Hein? Le ça, c'est qu'est-ce qui est caché, c'est la force agissante, c'est presque Dieu. Si ça serait Dieu, si on voudrait poser ça comme ça, en fait, on pourrait dire que c'est Dieu. Et donc, c'est Dieu, c'est la nature aussi. C'est réversible. Mm-hmm. C'est de découvrir justement les forces profondes qui nous font agir.
Mm-hmm. Tantôt, tu disais qu'un moyen de découvrir ça, c'était la 16.
Non, ensuite... je disais que c'était de la 16 que d'être, que de choisir le trajet de l'art, parce que c'était un assaise d'être à l'écoute et d'être retourné sur soi. Mm-hmm. C'est parce que c'est finalement c'est se couper des autres. Mm-hmm. Parce que pour l'éthique sociale, c'est de se retourner sur les autres et de donc le langage, qui est ce mode de, supposément le mode de communication, qui n'en est pas un. Parce que c'est un mode de renonciation. Parce que quand on communique par le langage, on renonce à tout ce qui ne peut pas être véhiculé par le langage. Donc, la cesse, c'est de choisir justement le silence, c'est de choisir le retour sur soi. Alors, c'est évident que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'art, c'est fétichiste, c'est une perversion. C'est pas très bien. c'est ça, mais je dis, c'est pour ça qu'on a toujours même eu cette notion de l'artiste comme étant quelqu'un de n'est pas très bien. Parce qu'effectivement, il n'est pas très bien. Parce qu'il s'occupe des choses les plus essentielles. Il s'occupe de se reconnaître et d'essayer de se découvrir. Et son projet est tout à fait intériorisé. Mais ça, c'est un assaise. Et surtout, de savoir que qu'est-ce qui est bon pour lui, en fait, comment est-ce qu'il peut savoir que ça va être bon pour les autres? C'est une grande gageure de se dire, ce qui est bon pour moi est bon pour les autres. Et d'autant plus, sur le plan strictement social, énergétique encore, de choisir de prendre l'énergie et de la...
Tu disais que, en parlant des automatistes, je suis un théoricien du molinarisme.
Mais oui.
Mais à ce moment-là, quelle sorte de lien tu fais entre ce que toi t'appelles comme ça, le molinarisme, et les plasticiens?
Ah, c'est ça.
Bon, les plasticiens, c'est... Quand j'étais molinariste, j'étais pas plasticien. Non, mais c'est que, tout simplement...
Ça, c'est quand tu étais encore à la traîne de le bon Dieu.
Oh, je m'étais à la traîne de le bon Dieu.
Non, c'est ça qu'on disait dans le texte.
Mais,
c'est
oui.
Pour ça que
tu as
envoyé le télégramme.
Non, c'est pas ça. Non, il disait tout simplement que c'était un texte, peut-être un article qui avait paru dans un petit journal. Hein, et puis il disait, oh, c'était celui qui gueulait, quoi, tout simplement. Et donc, il s'imaginait que le mouvement artistique de l'heure, c'était l'automatisme. Donc, je gueulais de l'automatisme. Hein. Mm-hmm. Il ne peut pas faire la nuance. Ils n'ont pas vu Les oranges sont vertes de Claude Gauvreau. Pour voir que... J'étais pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Non, c'est que théoriquement, justement, c'est que pour moi, l'automatisme, c'était une contradiction à plusieurs niveaux. Vraiment, au niveau de leur peinture, je trouvais que ça ne faisait pas du tout ce qu'ils prétendaient que ça faisait. Surtout, et personnellement, dans ce temps-là, pas plus que maintenant, je ne croyais à des mouvements. Et je croyais justement que l'individu ne pouvait que parler de lui. Et que d'autant plus que dans ce temps-là, ce que je posais, c'était très différent d'automatisme. Donc, si on veut la forme, par exemple, je faisais de l'informel dans ce temps-là, ma forme d'informel était très différente de celle de l'automatisme parce que ça découlait de ma peinture à la noirceur, qui était tout à fait très, très, très à l'encontre de qu'est-ce que posaient les automatistes. Donc, le genre d'espace qu'eux voulaient produire, moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'a jamais intéressé non plus. Donc, c'est strictement que... J'ai eu longtemps ce projet de me prendre comme modèle. J'ai vu dans le dictionnaire aussi que le molinarisme, c'était un mouvement économique. Il y avait un jésuite qui s'appelait Molinari, qui était très... très molinarien.
C'est sérieux, ça?
Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a eu un très grand jésuite qui s'appelait Molinari.
Ah oui?
C'est entendu? Écoute, Molinari, ça va de soi. C'est peut-être moi, d'ailleurs.
Non, mais en tout cas, la question, c'est que finalement, quelle différence fais-tu entre ta peinture et celle des autres plasticiens?
Quel genre de lien il y avait, finalement?
M'a dit le lien.
Contrairement à ce que tu viens de dire, finalement, c'est perçu historiquement comme...
Oui,
comme
ben, je veux dire, c'est simplement que... Simplement, moi, je crois personnellement que les automatistes ont peint un peu comme Tortuga. Et que les plasticiens... Moi, j'ai fait ma peinture et d'autres ont fait une peinture qui ressemblait à la mienne. Je crois que c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mais toi, tu vas penser que peut-être que c'est le contraire, je ne sais pas. Mais moi, comme je dis, moi, j'ai... par exemple, c'est moi qui ai exposé les plasticiens des Chouris. Parce que ça n'a rien à voir avec ma peinture. Et quand je fais mes tableaux noirs et blancs, ben, ça n'a rien à voir avec, avec le Duc. Comprends? Bon, le Duc faisait une peinture justement qui était d'origine française, en fait, qui a vécu tellement longtemps en France. En fait, sa peinture était très influencée par les peintres européens. Donc, sa peinture n'a rien à voir avec la mienne. Les autres plasticiens, ben, je crois qu'ils ont fait une peinture qui correspondait à leurs besoins. Mais moi, je n'ai jamais... comme je dis, pour moi, le mouvement, c'est strictement que moi, j'ai élaboré, si on veut, une forme d'esthétique, une forme d'explication, une forme de théorie sur le mode de peinture que je faisais, et que ça semblait s'appliquer à la peinture de ce que les autres faisaient aussi. Parce qu'eux n'ont pas élaboré de théorie sur leur œuvre. Ils se sont contentés de dire, bon, référez-vous peut-être à ce que Molinari dit, en fait. Mais il ne disait rien, quoi. Parce que moi, j'ai dit quelque chose, mais il veut dire, je crois que les mouvements, c'est toujours comme ça, finalement. Prends par exemple dans l'exposition du Musée d'art moderne, actuellement. Qu'est-ce que Matisse vient faire chez les fauves? C'est pas un fauve. C'est rien de moins qu'un fauve. Hein? C'est un fauve. On pense qu'il y a quel rapport entre Flamenque et puis Matisse. Hein? Mais c'est le fauvisme. Hein? Alors pour moi, c'est ça. Donc mon projet n'a jamais été de fonder un mouvement ou quoi que ce soit. Et malgré comme ça, on n'a pas tellement exposé de façon collective. En fait, on l'exposait à l'École des Beaux-Arts en 59. Ensuite, on a exposé la galerie de Nice Delru, une fois chez la galerie du siècle, en fait, de façon un peu rétrospective, on décède. Donc, je crois personnellement que si on regarde la production de chacun de ces individus, en fait, ceux qui ont fait un peu de plasticisme, Barbeau, d'autres, c'est beaucoup plus une question de manière de peindre. Que c'est vraiment une conception de l'art qu'ils avaient. Alors, par exemple, justement, les automatistes, ils n'ont pas continué par leur conception de l'art. C'était une chose qui... C'était une époque pour eux, quoi, finalement. Et je crois que c'est ça qu'on a vu dans l'exposition des automatistes au Musée d'art contemporain. En fait, la diversité, mais en réalité, là, le manque de profondeur chez la plupart des peintres. Parce que ça ne correspondait pas tellement à ce qu'ils étaient. C'était un mode de façon de peindre. Et il y a toujours des façons de peindre.
Tu parlais du Leduc qui avait subi une grande influence de la peinture française, mais toi, à ce moment-là, puis enfin aujourd'hui, quelles étaient les oppositions structurelles qui te distanciaient de la peinture américaine, si on pense à Newman?
Bien, c'est ça. C'est que moi, ma peinture, je crois que ça se voit dans la rétrospective, dans une certaine mesure, c'est que ma peinture, en réalité, est sortie d'un geste. C'est un geste qui s'est structuré. Exactement comme les papiers découpés de Matisse. Tu vois? Donc, quand j'ai commencé à faire des choses en noir et blanc. Je n'ai jamais entendu parler de Newman, parce que Newman n'exposait pas aux États-Unis.
Est-ce que tu connaissais Klein?
Klein, oui. Mais j'ai connu Klein en 55, et puis j'avais déjà commencé, tous mes dessins étaient déjà faits. Et mes tableaux à la noirceur, et les tableaux de 54, qui étaient déjà très structurés, étaient déjà faits. Quand j'exposais en 56, un des premiers tableaux qui s'appelle Abstraction, dans l'exposition, le repentir va passer à Klein.
Mm-hmm.
Mais ça n'a absolument rien à voir avec Klein.
Mais c'est ça qu'on veut savoir, pas savoir qu'il fait quoi avant, là. Ça ne nous intéresse pas. C'est
non.
Parce que
non, mais moi...
il y a des différences entre ce que tu fais et ce que ces peintres-là ont fait. Puis on voudrait savoir ce que tu penses qu'elles sont, ces différences-là.
Ces oppositions.
Les oppositions, mais je crois que dans une très large mesure, si on prend par exemple, disons, posons une chose, en 55, déjà, mon travail était déjà très orienté. S'il y avait un peintre américain que j'admirais, c'était Stanley Kunin.
Mm-hmm.
Et j'admirais son travail, justement, c'était par sa façon d'organiser la surface, qui pour moi était très, très vivante, très dynamique. Klein, je considérais aussi que c'est un peintre important, mais disons, pour moi, chez Klein, c'était énormément une forme d'action painting, un peu comme l'automatisme. C'est une peinture qui... comme de rature. C'est un peu comme Giacometti, si on veut dire, une espèce une accumulation. Et qui finalement aboutit à une forme d'espace extrêmement figuratif encore. Pour moi, ça, c'est pas le genre de peinture qui m'intéressait tellement. Malgré que je trouvais que Klein a fait des choses intéressantes, importantes dans la peinture américaine. Tant qu'à Newman, Newman, je l'ai connu lui-même, en 62. Et avant ça, j'avais jamais vu de ses œuvres, à part d'en avoir en 60, en 59, je crois, dans une Art News, quand il exposait à Bennington College. Et quand je ne sais plus, ça faisait déjà plusieurs années que, par exemple, le tableau qui est exposé à Ottawa, en fait, vertical noir, les bandes verticales avec une bande un peu oblique, ça fait penser énormément à des tableaux que Newman a fait un peu avant. Mais c'est fait sans aucun moyen d'avoir vu cette peinture.
Mm-hmm.
Et je crois qu'en général, quand j'ai exposé aux États-Unis, on m'a aussi accusé, comme dit de Berge dans son texte, d'être proche de Newman. Moi, je n'ai jamais trouvé ça. Parce que justement, la peinture de Newman était une peinture qui était toujours basée énormément sur une opposition entre la masse et le signe. Alors pour moi, justement, Newman est resté énormément expressionniste, au fond.
Merci.
Tu comprends? Très expressionniste. Et j'irai plus loin dans le sens du molinarisme. J'ai même eu une influence sur Newman.
Ça vient de la
tête. Non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai que c'est
à partir du temps où j'ai commencé à exposer à New York et de voir Newman, et puis il voyait toujours mes expositions, c'est évident que sa peinture a bien changé et elle s'est orientée de plus en plus vers le mode hard edge. Mais ça, ce que je vous dis, Brandon Smith me l'a dit il y a un mois, peut-être médecin à moi, quand je l'ai vu après l'exposition. Que quand il est rentré dans l'atelier de Newman après sa mort et qu'il a vu le dernier tableau qu'il faisait, il a trouvé vraiment que ça faisait penser beaucoup à ce que je faisais.
Mm-hmm. Vous avez, j'imagine, tu l'as connu dans
oui,
Newman,
oui,
vous avez des conversations ensemble.
Oui.
Avez-vous discuté des différences entre vos deux peintures?
Vous ne discutez jamais de peinture?
Mm-hmm.
De peinture
il y en a
d'exemple.
Beaucoup ce que je faisais. Par exemple, avant de mourir, il a passé au moins une demi-heure devant mon tableau, celui qui est au musée contemporain, le rouge et gris. trouvais vraiment que c'était un tableau absolument. Il apportait énormément. Il semblait en jouir énormément. Et pour moi, c'était très intéressant de voir deux bonhommes que je considérais comme étant des plus grands pères, qui appréciaient ce que je faisais. Et alors moi aussi, quand ils exposaient à New York, je me déplaçais pour aller voir ces expositions. Il n'y en a pas fait tellement, malheureusement. Mais tu vois, par exemple, sa dernière exposition, c'était assez décevant. En fait, je ne sais pas si vous savez, vous autres, mais c'était aux Accueils of Yellow, Red and Blue. C'est une série de tableaux qui était basée sur les couleurs primaires. C'était pas très, très bon. J'ai pas vu ces deux derniers tableaux. Mais évidemment, l'apport de l'humain est considérable dans le contexte de la peinture américaine. Et de la peinture en général, c'est entendu. Mais tu vois, c'est que fondamentalement, on n'avait pas la même conception de l'espace, tout simplement. C'est tout. Et donc, nécessairement, son mode de production était très différent. Et lui, justement, justement, à la fin, la toute fin, en fait, un peu sous mon influence, il s'est mis à peindre le rouleau. Mais avant, il peignait tout ça au pinceau. Puis il y avait toujours ce côté assez expressionniste de la surface. Tu vois, il valorisait ça énormément. Hein? Donc, il y avait vraiment une valorisation des accidents. Mm-hmm. Mais c'est surtout, je crois, que c'est assez superficiel, finalement. Et c'est poussé strictement l'organisation spatiale qui était différente. Et je crois fondamentalement que justement, qu'on n'a pas les mêmes antécédents, en fait, les mêmes génères. En fait. Mm-hmm. On n'a pas fait les mêmes projets du tout. Mm-hmm. Alors, par exemple, justement, je crois que dans ma peinture, au fond, les tensions qui se retrouvaient dans mes noirs et blancs, des plus grandes tensions sur la surface, c'est peut-être, justement, dans une très large mesure, ce mouvement diagonal était peut-être justement ce qui apportait la plus grande différence dans ma peinture, même dans mes séries. Parce que mes séries, moi, justement, sont vectorialisées, sont un mouvement. Alors, il est bien évident que toute personne qui fait des analogies entre moi et Newman, dans une très large mesure, ils ignorent toute ma peinture sérielle. On comprend? Et personnellement, moi, ce que je considère au niveau le plus important que j'ai fait, c'était de travailler énormément sur le problème de la réitération, de la répétition de la série. Mm-hmm. Pour moi, ces modes de création, c'est aussi intéressant, c'est aussi important que le travail de Boulay, de Stafford, de la musique sérielle. En fait, c'est vraiment un mode de produire, tu comprends, mais évidemment qui est comme les modes de composition musicale. Mais je crois que de m'être attaché à ce problème-là et d'avoir en fait, élaboré des espaces à partir de ça, c'est très original. Mm-hmm. Et évidemment, cela découle de mon travail sur la série, mm-hmm. de mes tableaux en bande verticale complexe. Mm-hmm. Mais ça, c'est donc, pour finir, je dirais que fondamentalement, la différence entre moi et Newman, c'est que moi, je vois Newman comme un peintre imagiste. Au fond, c'est une image très efficace, c'est ça qui est visé. Tandis que moi, c'est justement un peu comme je disais tout à l'heure, revenu des permutations, c'est le côté un peu compliqué. J'ai une tendance à la complexité et à une conception plus structurelle. Bon. Et en fait, c'est ça qui, en réalité, qui est une force à mon travail, qui m'aide toujours de passer d'un mode à l'autre. Bon. Alors, quand ma peinture devient trop simple, ça j'imagine que je dis pas tout, puis que ça devient trop emblématique, trop symbolique. Et là, ça me dérange. Je peux pas continuer là-dedans. Là, je cherche à trouver des modes plus complexes pour faire sortir des choses qui, que j'ai toujours l'impression qu'il y a des choses qui restent cachées. Jusqu'à maintenant, j'en ai découvert pas mal. Je pense qu'il y en avait vraiment.
Est-ce que c'est le seul avec qui tu as eu des rapports à New York?
Oui. Pour des rapports suivis, en fait, j'ai rencontré une fois des Kooning, j'ai rencontré aussi des Klein. Et j'ai connu Gustin, Diller. En fait, j'allais beaucoup à New York à un moment donné.
Tu n'as jamais pensé à aller y vivre?
Oui, j'ai pensé, mais je trouvais ça vraiment affreux. À part ça, non seulement affreux, mais tellement superficiel.
Le milieu?
Oui, le milieu. Le milieu est très superficiel. Je trouve que c'est... C'est des gens qui se prennent tellement au sérieux. C'est pas ça qui est déprimant. Puis à part ça, la vie sociale. C'est les bonnes femmes. Qui se mêlent. Non, mais tu les gérantes de l'art là-bas, c'est les bonnes femmes, des stations de radio. Tu sais, mais je veux dire, quand t'es pas connu, là, quand tu commences au pied de l'échelle, puis les galeries t'amènent des bonnes femmes, puis des interviews, puis des petits journaux, puis des affaires, puis les revues. Ah, oh, c'est effrayant. Quand je vais à New York pour le vernissage, je vous prie un tas d'affaires. C'est mieux dire ça. Ça m'a jamais tellement intéressé. J'avais une bonne femme. Non, mais tu sais, ça m'a jamais intéressé. À Venise aussi, on va faire des contrats.
Mais on viendra à ça plus tard. En tout cas, pour revenir, disons, à un aspect plutôt historique, là, on avait une question. Quel est l'apport de ta peinture dans la lignée de Leonid Malevitch Kandinsky Mondrian quant au rapport structure et couleur?
Bien, je crois, évidemment, à un certain moment d'année, j'ai essayé de relever le défi qu'on disait qu'on ne va pas aller plus loin que Mondrian. Ça, c'est dans les années 57, hein, 58, 59. Et donc, il y a été question pour moi de réfléchir énormément sur Mondrian. Et c'est un peu, en fait, les conclusions que j'en ai eues sont un peu les mêmes que ce que j'ai un peu ça sur Newman. La conception d'espace de Mondrian est assez étrange. Tu sais. Et finalement, c'est ça que... C'est ça qui m'a un peu... C'est pas être un bon peintre, Mondrian.
Qu'est-ce que tu dis par étrange, cette conception d'espace?
Ben, c'est qu'il semblait ne pas en avoir. Il ne parle jamais d'espace dans ses textes. Et on n'a vraiment pas l'impression que c'est ça son intérêt, qu'il veut produire un espace. Et que finalement, son système topologique, en fait, son système, qui est un système de recoupement, en fait, de recoupement, mais de par-dessus l'autre, là, superposition. Ben, ça crée énormément une structure logiquement tridimensionnelle. Après avoir étudié Mondrian, c'est là vraiment que ça me permet à la conclusion de cette nécessité d'éliminer ce recoupement sur la surface. Tant qu'à Malevitch, quand j'ai vu son plan sur blanc, musée d'art moderne de New York. Très impressionné, évidemment. Mais à bien y penser, quand j'y ai pensé comme il faut, ça reste un tableau cubiste. Tu sais, c'est un rapport de valeur, au fond. Et sa série suprématiste, ben, au fond, c'est comme l'art conceptuel. C'est une énumération d'un certain nombre de possibilités, mais c'est pas des tableaux. On les a jamais vus comme tableaux, on les a toujours vus comme diagrammes. C'est une série de diagrammes. La peinture de Malevitch, à part de ça, qu'est-ce qu'on en a vu? C'est très, très futuriste. C'est très vectorialisé, mais dans un sens futuriste. Des vanishing points, des choses comme ça. Delaunay. Une rétrospective de Delaunay qui circule aux États-Unis actuellement. C'est à l'orangerie hein, qui expose. Il expose à l'orangerie. J'aimerais savoir ça. C'était un peintre qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais jeune.
Surtout ces tableaux cubistes, parce que moi, je, comme lui, j'ai toujours pensé que les cubistes allaient peindre très, très ennuyeux. Et je trouvais que Vézeloni, justement, dans cette période-là, ses fenêtres simultanées, c'était beaucoup plus intéressant que les cubistes. Mais à part d'avoir influencé Klee, je ne crois pas qu'il était très loin avec ses cercles. Il était aussi loin que Nolan, mais. Je pense. Pour moi, c'était un peintre qui a passé à côté. Hein. Il n'a pas pu vraiment bénéficier de ses intuitions. Je pense qu'il a été récupéré hein, pas mal par le système, devenu un décorateur. C'est ça qui m'arrive aussi, les murs.
Mais comment tu connaissais ça, ces choses-là? En avais-tu vu beaucoup en réalité? Ou si tu les voyais surtout par reproduction?
Non, ben, en fait, de l'aunée, en fait, je l'en ai vu peut-être à New York. Hein. Parce que je ne voulais pas aller en Europe hein, quand j'étais jeune.
Non,
je ne voulais même pas l'Europe. Je sais que l'Europe, c'était bien vieux, bien fini.
Mais tes parents n'étaient pas...
Non.
Tes parents étaient...
Canadiens, oui. Ouais. Mais même moi, j'avais un gros barrage, l'Europe. J'étais anti-européen quand j'étais jeune. Et je ne voulais pas aller là du tout. Et je pense que je n'aurais rien vu, d'ailleurs, dans ces années-là. Il n'y avait rien à voir. Les années 50, là. Il n'y avait rien à voir. Mathieu, des gens comme ça. Ouais. C'est pas ça qui m'aurait intéressé. Non, mais je crois que je réponds à ta question. Je crois pas que je scinde mon moi trop. C'est qui c'est qui pose une question maintenant?
Vas-y. Avec qui l'avait de la prochaine, là? Bon. Ici, c'était contrairement aux préoccupations d'une certaine peinture américaine, comme celle de Stella ou ce qu'on appelle la nouvelle peinture américaine, peut-on dire que ta peinture nie toute notion de physicalité en affirmant qu'elle se dégage de la dualité forme-fond, de la notion d'objet pour n'être qu'une structure définie par l'énergie de la couleur et non un support?
C'est bon, ça.
C'est ce que je fais.
Wow, j'avoue dire à faire ça, c'est bien. I'll buy that. Oui, en réalité, par exemple, fondamentalement, je crois, quand on discute de peintres, les peintres que tu viens de nommer, peintres mineurs, c'est des peintres qui s'intéressaient fondamentalement à des façons de dessiner. C'est des diagrammes. Par exemple, dans les rétrospectives de Stella, ces diagrammes étaient meilleurs que ces tableaux. Ça va loin, ça. C'est très grave. T'sais. Ces dessins sur papier graphe étaient meilleurs, ces tableaux. Parce que ces tableaux n'avaient rien de plus. Ces tableaux ne véhiculaient rien de plus. C'est des façons de, justement, comme je disais tout à l'heure en 70, de faire des permutations. Par exemple, tu lis les livres de Copeland sur Stella, ce qu'il dit, en fait, qui commençait à faire une série de 48 tableaux. Mais c'était les 48 permutations d'une idée séminale. Comprends? Mais pour moi, ça, c'est pas de la peinture, c'est de la prostitution. Alors, moi, c'est sûr que ma peinture, je l'ai toujours conçue, comme je disais tout à l'heure, comme un événement psychique, un événement qui serait vécu. Et que l'intégrité de la proposition de faire que le temps possible, on ne puisse pas la défaire. Il y a une bonne femme qui m'a fait un grand compliment, ben c'est une bonne femme que vous connaissez, c'est Betty Goodwin. Quand elle venait me rendre visite, quand elle était pendant une peine célèbre, elle disait, mais quand on retourne chez nous, on ne peut pas se souvenir de ce qu'on a vu. C'était bien, tu comprends? Ça prouvait justement que, une fois qu'elle avait vécu le tableau que je lui montrais, les quelques tableaux que je lui montrais, elle ne savait pas ce qu'elle avait vu. C'était tout simplement une expérience intériorisée qui excluait la mémoire de l'image. Ça, c'était justement, c'est la réponse justement à ta question. Parce que justement, c'est que pour moi, il a toujours été question de. Ben, disons que je crois, tant que possible, que je fais un tableau pour moi. Et quand je fais un tableau, presque toujours, le tableau me surprend pas mal quand je l'ai fini. Et ça me prend déjà, moi, à moi-même, un bout de temps pour m'habituer au tableau. C'est bien rare que je fais des tableaux qui me plaisent spontanément. Il faut que je vive avec assez longtemps pour voir que le tableau a vraiment quelque chose à dire, à apporter. Et je crois que c'est ça qui se produit, parce que c'est que moi je fais des tableaux pour moi. C'est pas parce que j'en vends pas que j'en ai 200. C'est parce que je les garde. Mais parce qu'ils me font du bien. Alors c'est pour ça que quand quelqu'un vient à mon atelier, je leur montre 20 ou 25 tableaux. Ben, ça me fait plaisir de les voir. Pas de leur montrer. Parce que ça, tu montres tes tableaux. Justement. Parce que c'est pas lui après. C'est pas toi qui contrôle. Hein. Non. Je crois franchement que la. Qui pour moi, il est vraiment question de dépasser les moyens. Alors, c'est pour ça que dans mon mode de production, j'exclus même de voir le tableau quand je le fais. Ça, c'est une autre forme d'assaise. Hein? De même pas voir son tableau quand on le fait.
Je comprends pas ce que
tu... Est-ce que je le recouvre continuellement?
Moi, j'ai remarqué sur une photo qu'il y a une partie...
Ah oui, c'est tout recouvert. Quand mon tableau est fini, je dis, c'est la dernière partie que je vois. Là, dès que je peins quelque chose, je le recouvre.
Une partie du tableau?
Mais oui, c'est ça. Mais chaque fois que je peins quelque chose sur le tableau, je peins quatre couleurs. J'en peins une, je la cache. Je peins la deuxième, je la cache. Je peins la troisième, je la cache. Alors, finalement, j'ai la quatrième, je ne peux pas la cacher.
Mais comment tu décides de quelle couleur?
Tu l'as en mémoire?
Oui. Mais c'est la 16, tu vois, je vois même pas mon tableau quand je le peins. Même pas un jouet quand je le fais.
Si tu mets le bleu puis tu as mis un rouge, le rouge, il est caché, tu ne le vois plus. Donc, tu as une mémoire du rouge.
Oui, c'est ça.
Et tu fais le bleu avec le rouge en même
temps. Mais la dynamique, elle se crée complètement dans l'abstrait, pas du tout parce que tu compares un.
Mais non, parce que j'ai découvert que ça, c'était faux. Parce que. Parce que ces deux couleurs-là, elles ne sont plus jamais ensemble. Ils vont toujours être dans la conjecture de la totalité. Alors comment les voir, ça serait m'induire en erreur de voir un rouge quand je peins bleu. Mais ce rouge-là, il ne sera pas avec le bleu, il va être avec le jaune, avec le vert. Tu comprends? C'est pourquoi je ne peux pas essayer de le faire fonctionner avec le bleu. Alors qu'il s'agit pour moi de voir ce rouge-là dans une plus grande dimension, dans une plus grande potentialité de rapport. Savoir que ce rouge-là existe et qu'il devra vivre dans ce contexte. Il vit dans un contexte et non pas vivre dans un rapport simple avec une couleur ou avec deux couleurs, mais il faut qu'il vive avec trois ou quatre couleurs.
Mais tu es en train de nous dire que tu laisses les couleurs presque aller au hasard.
Au contraire.
Non, c'est
au contraire, il s'agit de savoir que cette couleur-là, elle doit être faite, mais dans une polyvalence. Alors, quand je la peins dans sa polyvalence. Mais il faut que j'intuitionne. C'est comme un compositeur qui écrit une note. Mais cette note-là, il sait bien qu'elle a un sens dans le contexte. Mais il ne croit pas que c'est le plus beau do qu'on peut avoir. Bon, ben, c'est pareil pour moi. Mais donc, je me dis, c'est que tu ne peux même pas voir ton tableau quand tu le fais.
Mais quand tu le regardes après terminé...
C'est là que je le vois.
Mais puis à ce moment-là, tu le vois. Est-ce que tu changes des couleurs?
Très rarement. Parce que... Pas pour me tromper. Non, c'est ça, je change bien rarement parce que...
Ça marche tout le temps.
Non, c'est parce que j'ai... parce que j'ai les... Probablement, j'ai vu le tableau. Hein. Je le vois, le tableau, avant de le faire. C'est ça qui est le plus difficile. C'est plus c'est de choisir.
C'est
presque de là.
C'est une œuvre conceptuelle.
C'est très conceptuel. Parce qu'il faut que je vois le tableau. Puis une fois que je le vois, il faut que je le tienne dans ma tête. Puis il faut que